RCI TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Cette semaine, nous avons décidé d'aborder le thème de l'avortement avec notre invitée Audrey Mag. Bonjour,
bonjour
Audrey.
Bonjour Annabelle, mesdames.
Bonjour.
Bonjour
Audrey.
Bonjour, Audrey.
Bonjour, quel plaisir.
Toujours.
Oui, toujours.
J'adore être avec vous, mesdames.
Oh, oui, nous aussi, on aime vraiment. Si tu veux revenir plus souvent, tu es absolument la bienvenue.
Amen.
Et hier, on a commencé à parler du sujet de l'avortement. Et ça a été vraiment une émission où on a pu voir déjà beaucoup de choses, beaucoup d'informations, partager aussi beaucoup d'émotions à travers ton témoignage personnel. Donc, je vous encourage à regarder l'émission d'hier si vous voulez revivre ces moments et puis surtout avoir les informations qu'on a partagées hier. Et aujourd'hui, on voudrait continuer en prenant le temps de développer les grands arguments, les arguments majeurs en fait qui alimentent le débat de l'avortement. Et on veut pouvoir les regarder. Et puis comme on a dit hier, le but, c'est vraiment d'informer et puis de mettre sur la table finalement tous les éléments, toutes les informations qu'on a pu trouver. On n'est pas là pour accuser, pointer du doigt, parce que comme tu l'as dit hier toi-même, Audrey, lorsque tu étais plus jeune, tu as aussi avorté. Donc vraiment, tu n'es pas là pour pointer du doigt. Au contraire, c'est parce que c'est un sujet qui te tient à cœur, parce que tu l'as toi-même personnellement vécu. Donc pour commencer, un des premiers arguments, ça va être « c'est mon corps, donc c'est mon choix ».
Eh bien, j'ai en fin de compte été recherchée plus ou moins quels étaient les arguments qui voulaient défendre l'avortement. Et donc, j'ai trouvé les différentes... et je suis allée, bien sûr, sur des sites séculiers, sur des endroits qui, pour la promotion de l'avortement, pour voir vraiment ce qu'ils pensaient et ce qui les motivait. La première raison, c'était « c'est mon corps, c'est mon choix ». Et c'est en fin de compte un de leurs des slogans. Et quand j'ai réfléchi à ça, quand on dit « c'est mon corps, c'est mon choix », j'ai quand même réalisé que oui, c'est le corps de la femme, c'est vrai. Mais ce qu'elle a à l'intérieur, certains l'appellent un embryon, un fœtus, un enfant, est-ce que c'est son corps ou ça fait simplement partie de son corps ? Et en fin de compte, on découvre que ce bébé a un ADN qui est différent, un système, un groupe sanguin qui est différent, même des empreintes digitales qui sont différentes, ce qui en fin de compte le rend unique. J'ai même découvert qu'il avait 23 chromosomes de la mère et 23 chromosomes du père, ce qui en part entière rend ce fœtus, cet embryon, cet enfant, comme vous choisissez de l'appeler, cet enfant est un individu. Donc oui, la mère, hein, c'est son corps, mais ce qu'elle porte, ce n'est pas son corps. C'est dans son corps, mais ce n'est pas son corps. Et puis, quand l'argument qui vient après, c'est que ce qu'elle porte dans son corps, ce n'est qu'un amas de cellules. Ce n'est qu'une masse de chair, un amas de cellules. Ce n'est pas un être humain. Et l'argument, en fin de compte, qu'il utilise, c'est que si c'était un être humain, eh ben, un être humain, c'est quand il peut prendre soin de lui-même sans la mère.
D'accord.
Mais en fin de compte, tu en parlais même hier, et peut-être que tu peux le dire, que si cet enfant, il était... On a dit beaucoup de choses, c'est vrai. Mais on en discutait plus de Anne et moi hier, et puis on disait, mais cet enfant, même quand il est hors du ventre de la mère et que vous le mettez là sur le côté, sans la mère, il ne peut pas prendre soin.
Ben oui, un nouveau-né, même de quelques semaines, il n'est pas capable de survivre tout seul. Donc,
est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas un être humain ?
Mais non, c'est ça. C'est pas un argument viable.
Donc, c'est ce qui m'a amené à réfléchir à chaque argument. J'ai commencé un peu à réfléchir en me disant pourquoi ils disent ça. Et un un des arguments majeurs, c'est que cet enfant, bon, l'avortement, on peut arrêter la vie de cet enfant parce qu'il ne sent pas la douleur. Ce qui en fin de compte déculpabilise, déresponsabilise un peu la personne, dit bon, il sent aucune douleur, donc ben, c'est pas grave. Et donc dans mes recherches, j'ai en fin de compte découvert des témoignages de chirurgiens, de néurologues, je peux même vous donner les noms, docteur Paul Renali Et écoutez ce que docteur Paul Ranalli a dit. Il dit à 20 semaines, le cerveau du fœtus a l'ensemble des cellules cérébrales prêtes à recevoir des signaux de douleur. Et l'activité électrique du cerveau peut être enregistré par électroencéphalogramme. C'est un docteur, il n'était pas...
C'est le neurologue dont tu me parlais? Il est neurologue?
Non, c'est l'autre. Il y a aussi un neurologue, docteur Robert White. Okay. Il est professeur de neurochirurgie. Okay. Et il a dit, un enfant en 20 semaines de gestation est pleinement capable de ressentir la douleur. Il est même allé un point plus loin. Il a dit, sans aucun doute, l'avortement est une expérience terriblement douloureuse pour tout enfant soumis à ce genre d'intervention. Donc là, c'est l'avis d'un chirurgien, d'un neurologue de l'Université de Toronto et d'un neurologue, professeur de neuro, un chirurgien, un neurochirurgien. Et ce sont deux docteurs qui ont dit, ce fœtus, cet enfant peut ressentir de la douleur.
Mais c'est souvent un argument à l'histoire de ne pas ressentir la douleur. Mais c'est... Même à la naissance, je me souviens, j'avais un bébé qui avait nécessité des soins et on lui avait piqué sous le pied et là pour une intraveineuse. Puis on m'avait dit, non mais il souffre pas, il ressent rien. J'ai dit, mais il ressent rien. Et ça, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup concernant les bébés, ce qu'on fait au bébé. Non mais il a pas mal, mais la preuve que non.
Et ça vient aussi peut-être du fait que le bébé, qu'il soit d'ailleurs dans le ventre ou même à l'extérieur, dans le cas de ton bébé. Et c'est vrai, je me souviens, moi aussi, à la maternité, on m'avait dit, ah non, mais ils sentent rien, de toute manière, on les manipule, etc. Et c'est parce qu'en fait, ce sont des êtres humains qui n'ont pas ils manifestent pas et puis ils peuvent pas dire, ils font pas aïe. Ouais. Ils pleurent, oui, mais ils pleurent parce que ceci, ou alors, dans le ventre, ils ne pleurent pas. Mais, et du coup, leur silence est peut-être perçu, finalement, comme une approbation ou une espèce d'indifférence ou d'immunité contre la douleur. Et là, je n'avance pas de faits, moi, médicaux, mais est-ce que parce que quelqu'un est silencieuse, est-ce que parce que quelqu'un ne fait pas valoir, ne peut pas faire valoir ses droits, est-ce qu'on peut se permettre de parler à la place de cette personne, finalement?
C'est certain aussi, je pense, que le fait de déclarer qu'un bébé, un fœtus qui est encore dans le sein de sa mère ou même assez formé, de dire qu'il ressent pas la douleur, ben je pense que c'est un peu de jouer à l'autruche parce que en fait ce que je veux dire c'est que c'est ben ça nous enlève peut-être un peu de culpabilité aussi de dire ben moi je choisis de cesser la vie de cet enfant et si je me dis que cet enfant-là souffre pas, eh bien peut-être que ça m'aide à faire
me réconcilier avec
oui, mais ça me réconcilie
décision.
Avec cette décision, ça me réconcilie avec ce choix et qui fait partie de nos mœurs aujourd'hui.
Ce que je trouve spécialement très intéressant à ce sujet, j'étais il y a à peu près 2 semaines en Suisse. Et alors j'étais là, assis à une table de restaurant, puis j'étais avec un monsieur qui était, lui, qui avait une formation de restauration et tout ça. Puis il me dit, oh, la Suisse, on vient juste de passer une loi. Elle était passée en fin de compte au 1er mars, donc c'était tout récent. Une loi qui interdit aux restaurateurs ou même aux personnes qui cuisinent de mettre des homards dans de l'eau bouillante parce qu'ils vont
des sentir... Des homards vivants.
Voilà, vivants dans l'eau bouillante parce qu'ils vont sentir de la douleur. Et c'est, je trouve ça un petit peu... Je me dis, mais il y a l'air d'avoir un petit peu quand même un double langage. Peut-être ça vire à l'hypocrisie aussi, que d'un côté, on est tellement concerné de la douleur d'un homard, mais de l'autre côté, très facilement... On dit non, ben l'enfant il sent rien. Mm-hmm. Le bébé dans le ventre ne sent rien.
Mm-hmm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va très facilement à la défense des animaux, mais à la défense du bébé par contre, il y en a un petit peu moins qui vont peut-être être de.
C'est-à-dire on va s'émouvoir de la douleur d'un bébé qui vient de naître par exemple. Oui. Hein, j'ai entendu récemment, il y avait une histoire, je pense que c'était à Toronto, une jeune fille qui avait accouché, qui avait jeté le bébé dans les poubelles. Okay. Et donc là, tout le monde était complètement dans l'émotion à son comble parce que le bébé avait été retrouvé dans les poubelles. Mais ce même petit bébé aurait été... en tout cas, on lui aurait enlevé la vie plusieurs...
Une heure avant.
Dans certains cas, oui, peut-être. Apparemment, puisque à ma grande surprise, j'ai appris qu'on pouvait encore avorter jusqu'à un stade très, très avancé de la grossesse. Ben, je veux dire, ça aurait ému personne, en tout cas pas grand monde. Mais là, juste après la naissance, ah ben, du coup, on s'émouvait de sa souffrance. Ce qui est bien, mais pourquoi est-ce qu'on
on ne se sent pas sensible à la douleur d'un...
Je pense que c'est un peu comme une politique de l'autruche. Comme on ne le voit pas, il est caché au regard, il est dans le ventre, on ne le voit pas. Moi, je suis grand-mère pour la deuxième fois depuis une semaine. Quelques jours, même pas une semaine.
Félicitations.
Merci. Mais je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait des gens qui m'ont dit « Ah, alors, t'es grand-mère ». Sinon, moi, ça fait 9 mois que je suis grand-mère pour la deuxième fois. Mmh. Parce que ce bébé, même si je ne le voyais pas, il bougeait, il donnait des coups de pied. Je le voyais dans le ventre de ma fille qui faisait des bosses. Ouais. Elle était là, la petite fille. Et donc, j'étais déjà grand-mère. Je ne suis pas devenue grand-mère à 16h24, tel jour. J'étais déjà grand-mère. Et je pense qu'il y a vraiment une vision de l'autruche. Ouais. Et tant que c'est dans le ventre, on ne veut pas le savoir, on ne le sait pas. Mais une fois qu'il est né, ah ben là, il existe. Ben,
Et je pense, en tant que femme, on peut prendre aussi le temps de s'arrêter. On se fait donner une certaine information pour nous dire, bah, tu sais, cet enfant, t'es pas obligé de le garder. Et puis, enfin, je sais même pas si on dit cet enfant, mais parce que y a pas de vie, parce que c'est pas encore une personne, c'est pas encore un bébé. Tu sais, il a rien fait et ça va comme ça. Ta vie ne changera pas. Et puis l'intervention sera rapide. Et puis demain, on verra d'ailleurs en quoi consistent réellement ces interventions. Et on pourra vraiment mettre des images sur ces mots parce que ça reste quand même un concept un petit peu flou. Oui. Et de se dire, qu'est-ce que je disais, que voilà, on a tous ces arguments qui nous sont donnés. Et c'est vrai que ça facilite cette pensée de se dire, c'est pas le bon moment, je l'avais pas prévu. Tu sais, après tout, c'est juste un petit amas de cellules. Bon, tu sais, je suis pas en train d'enlever une vie, c'est pas si grave que ça, mais faut avoir aussi donc l'information qu'on a donnée entre autres, et qu'il y a un ADN, un code génétique qui est déjà propre à ce bébé. Et est-ce que à partir de ce moment-là, est-ce que vraiment dans ma conscience, je considère qu'il y a de la vie ou est-ce que je considère qu'il n'y a pas de vie?
Moi, j'ai pensé à ça. Ça fait pas longtemps. Je me suis dit, ben au printemps 1966, j'étais un embryon dans le ventre de ma mère. Parce que je voyais à la télé les femmes qui disaient pour le droit des femmes, le droit des femmes, et je suis la première à défendre le droit des femmes. S'il y en a une, c'est moi ici. Et je me suis dit, mais c'était moi déjà au printemps 1966, c'était la même moi, même ADN, même programmation là. Ouais. C'était moi. Et il y avait à l'époque une loi qui a protégé mon droit. Le droit, et ma mère n'a pas avorté de moi parce que au printemps 1966, elle n'aurait pas pu. Et on a protégé mon droit à cette époque-là de la même manière qu'on protège mes droits maintenant. Quand on milite pour le droit des femmes, on milite pour le droit de quelle femme exactement? Parce qu'il y a techniquement, statistiquement, un bébé sur deux qui est avorté, qui est une fille, à peu près. Il y a un peu plus de filles que de gars à la naissance. Non, un peu plus de gars... Oui, c'est ça, que de filles. On va dire moitié-moitié, hein, pour faire simple. Ça veut dire qu'il y a la moitié des avortements, c'est des petites filles qui ont été avortées. Alors, on parle du droit de quelle femme exactement?
C'est ça, en fin de compte, on doit se poser la question. Un des autres arguments aussi... qui est amené, c'est que ben l'enfant dans le ventre de la mère n'a aucun droit humain. Et moi, ça m'a amené. Oui, ils disent n'a aucun droit humain. Et donc, ce qui m'a amené, je suis allée pour faire des recherches pour savoir quels étaient les droits humains. Et donc, j'ai regardé dans la Convention européenne des droits humains. Il y a différents articles et j'ai vu que les premiers 6 articles, ben, l'article numéro 2, c'est le droit à la vie. L'article numéro 3, droit de ne pas être soumis à la torture et à des traitements dégradants. Le droit numéro 5, droit à la liberté, à la sécurité. Et l'article 6, droit à un procès équitable. Et donc, j'ai pensé à ça, j'ai dit, waouh, donc on enlève ses droits à un enfant qui est dans le ventre de sa mère, qui devrait être dans le droit le plus sécur au monde, l'endroit où il est supposé être protégé, où il est supposé être nourri, et c'est là où il est le plus en danger, parce que on se pose la question, on se dit, ok, il a pas les droits humains. Est-ce que un être humain, est-ce qu'on pourrait discriminer, par exemple, pour sa race? Voyons, on dit, est-ce que parce que vous avez une race différente, on va discriminer les droits humains? Est-ce qu'on va discriminer la couleur de la peau? Ou est-ce qu'on va discriminer avec la, par exemple, femme ou homme? Ou discriminer le lieu de résidence? Et on va dire un grand nom. Parce que si vous habitez le droit humain, que vous habitiez au Canada, en France, aux États-Unis ou en Afrique, vous avez, selon la Convention européenne, les mêmes droits humains. Mais pourtant, ce droit, on discrimine contre les enfants qui sont dans le ventre. Parce que qu'est-ce qu'on dit en d'autres mots? Eh ben, parce que tu es dans ton lieu de résidence, le ventre de la mère, ben, tu n'as pas de droit humain. Parce que, et c'est ça qui est intéressant, c'est cet enfant, il est dans le ventre de la mère, à 5 mois, et ben, s'il est hors du ventre à 6 mois, par exemple, parce qu'à 6 mois, ils peuvent vivre, et ils peuvent être hors du ventre de la mère. S'il est dans le ventre de la mère à 6 mois, on lui denie, on lui enlève ses droits humains, et puis si par hasard il est prématuré et puis il est hors du ventre de la mère, ben tout d'un coup, il a des droits humains. On se dit, mais ça, c'est injuste. C'est injuste, en fin de compte. Et ça nous pose la question, c'est la grande question, est-ce que cet enfant est un être humain? Et il y a aussi un autre argument, je crois qu'on a besoin d'en parler, c'est qu'on dit, la plupart des personnes qui veulent un avortement, et comme on a dit, elles le font pas d'une manière méchante ou malicieuse, c'est souvent par ignorance, parce qu'elles ne savent pas toute l'information, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour accuser, on est là pour mettre toute l'information sur la table, dire, ben voilà, vraiment, vous avez ce côté, puis voilà maintenant l'autre côté. Mais la plupart des femmes qui se font avorter, on a découvert, c'est parce que elles ne sont pas financièrement, elles ne se sentent ou émotionnellement, elles ne se sentent pas capables d'élever un enfant.
Mais déjà, dans l'argument du droit humain, c'est ça qui a été beaucoup utilisé pour justifier l'avortement, justement en disant que le corps appartient à la femme et sa décision tant que l'enfant n'est pas sorti du corps. Et des fois, les femmes ont dit ça, je t'ai donné la vie, tu vas dire à ton enfant, je t'ai donné la vie. Mais il y a vraiment quelque chose que le Seigneur m'a montré. J'ai porté la vie, j'ai pas donné la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre. Nous portons la vie, oui, mais ce n'est pas nous qui la donnons. Parce que même quand on va se retourner en arrière, on pourra pas dire c'est à ce moment X que l'enfant a été conçu. On peut dire oui, c'était dans cette semaine ou mais vous pourrez pas décider demain je conçois un enfant. Non, vous pouvez essayer.
Ils ont essayé,
mais c'est Dieu qui donne la vie. Et ça, c'est vraiment important pour, alors qu'on parle de toutes ces informations, vraiment l'émission d'aujourd'hui, c'est tout simplement une émission d'information. Et vous qui nous regardez, d'écouter ces informations-là avec ça, comme arrière-plan. Et c'est vrai, dans les statistiques, j'ai été sur le site d'Avortement Canada. Et il disait que beaucoup de statistiques, j'ai regroupé à peu près 42% des raisons, c'est soit parce que la personne se trouve dans une situation financière précaire, donc elle peut pas financièrement s'occuper de l'enfant. Des fois, c'est des couples, on a dit hier que la plupart des avortements, c'est des couples, c'est des femmes mariées, c'est des femmes adultes en tout cas, qui sont en mesure de subvenir à leurs besoins, mais parce qu'elles sont dans une situation financière délicate ou peut-être que c'est un quatrième enfant alors qu'on a vraiment plus l'espace pour, ça va justifier, ça va pencher pour l'avortement. Ou encore parce que elles ne se sentent tout simplement pas prêtes. Elles ne se sentent pas prêtes à parce que c'est une grossesse qui est imprévue. Et d'autres arguments aussi, c'est parce qu'il y en a qui vont avorter parce qu'elles sont jeunes. Mais on a bien vu que dans les statistiques, les jeunes, il y en a pas tant que ça des jeunes filles. Ou bien parce qu'elles sont dans une relation problématique où elles sont célibataires. Donc le cas par exemple de tu es en couple avec quelqu'un, vous cheminez et puis malheureusement vous faites l'amour et puis bon, tu tombes enceinte. Et là, il te laisse, tu vois. Et là, tu te retrouves que t'es seule avec l'enfant, tu sais pas quoi faire. Ou encore, c'est que le mariage bat de l'aile. Et comme on a dit hier, de prendre des décisions permanentes dans des situations temporaires. Oui, peut-être votre mariage bat de l'aile aujourd'hui, mais c'est pas demain, votre mariage va pas battre de l'aile pour toujours. Dieu peut restaurer. Mais parce que la grossesse arrive dans ce moment difficile.
C'est un peu vulnérable.
Les gens sont vulnérables. Et vraiment, ils prennent des décisions là-dessus. Vraiment, dans toutes les statistiques que j'ai pu reprendre, vraiment, la majorité, je dirais à 60%, c'est ça les raisons. Les raisons de la santé de l'enfant ou de la mère, ou des raisons d'inceste ou de violence sont vraiment, ou de viol, pardon, sont vraiment minimes.
Mais la majorité. J'avais pas dit que c'était simplement parce que ça, c'est aussi un argument et un grand argument qui dit, ben, le viol, l'inceste, doit y avoir l'avortement. Et en fin de compte, on en parlait hier que ce n'est que 1%.
C'est 1%.
C'est ça, 1%
des cas. 1% les cas de grossesse suite à viol ou inceste.
C'est pas la majorité des grossesses. Mmh. Et là encore, même plus tard dans la semaine, on va parler des témoignages des personnes qui ont eu des grossesses par là, mais quand même qui ont eu une autre alternative oui. que l'avortement.
Moi, j'avais lu aussi, tu en avais parlé dans la première émission, hein, qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, ben, des femmes de carrière ou même des jeunes filles qui sont à l'école, que des fois, c'est ben, on a l'impression qu'avoir un enfant, ben, ça va détruire la carrière, détruire la vie. Et...
Mmh. C'est sûr qu'il va y avoir un impact, on va pas minimiser. Oui. C'est vrai, peut-être que ta carrière va être fichue, peut-être que tes études vont être fichues, mais après, faut mettre tout dans la balance. Mmh. Puis dans ce que tu disais, ça me faisait penser à une chose importante, c'est que on ne peut disposer que de ce dont on est propriétaire. Mmh. Ma voiture, je peux la jeter, elle m'appartient. Mmh. Je peux l'acheter. Mmh. Des choses qui m'appartiennent, je peux en disposer. Même mon chien, je peux aller le faire piquer chez le vétérinaire, il m'appartient. Mmh. Personne va venir me dire non, madame, mais ce chien est à moi, donc je peux, si je veux, aller le faire piquer, mon chien. Mais est-ce que l'enfant que je porte, c'est ma propriété? Et t'as mis le doigt sur quelque chose d'essentiel. Je donne pas la vie, je la porte. Mm-hmm. Et faut bien réfléchir sur cet enfant. Est-ce que je suis propriétaire de cet enfant ou pas? Parce que c'est ça, hein, le débat. Si je peux l'avorter, ben c'est parce que j'en suis propriétaire.
Mm-hmm. Une chose aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'avant, autrefois, on parlait de l'avortement vraiment dans des cas où c'était relié à la honte. Souvent, c'était une grossesse hors mariage, un viol,
un incest.
Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment encouragé par commodité. Mm-hmm. Et comme t'en as témoigné hier, Nadine, qu'on t'a proposé ça quand tu étais une femme mariée, que c'était ton troisième enfant, c'est comme si maintenant on n'encourage que ça. Et il y a vraiment une pression sociale de nos jours où choisir la vie est devenu presque honteux. C'est honteux et c'est ça que on jette la pierre à celle qui choisit la vie et il faut juste remettre dans la balance que c'est un choix de vouloir choisir la vie encore. S'il y en a qui nous écoutent,
si je peux me permettre, bah, juste pour nuancer quelque chose, parce que c'est entièrement vrai quand les personnes, comme ce que tu témoignais dans l'émission d'avant, jugent que, ben, selon les critères de la société dans lesquels tu es dans une situation, ça serait plus logique d'avorter. Mm-hmm. Mais par contre, on va pas toujours être dans ce schéma-là. Par exemple, on va quand même glorifier les femmes qui tombent enceintes, qui choisissent d'être enceintes et tout. Donc, quand il y a une question de choix, là, on va l'accepter. Donc, et on va, par contre, faire pression sur les filles dont on juge qu'elles sont dans une situation. Mm-hmm. Tu disais, bah, c'était ton troisième enfant. Mm-hmm. Pour la médecin, bah, c'était logique. Mm-hmm. Elles étaient trop rapprochées. Mm-hmm. T'étais pas dans une meilleure situation. Donc là, on va juger que tu ferais mieux d'avorter. Mm-hmm. Mais dans certains autres cas, quand même, on va pas toujours nous pousser à ça. Mm-hmm. Mais on va juger, on va se substituer à toi pour juger si c'est bien fondé ou t'es étudiante. Mm-hmm. Puis le médecin va dire, bah, tu devrais te faire avorter.
Ce qui est aussi le cas et une des raisons, c'est que si l'enfant est trisomique ou handicapé ou a des défauts quelconques, ben là, la pression va encore plus grande et ce n'est même plus une pression, ça devient une obligation que tu dois avorter l'enfant. Et là, quand j'ai commencé à étudier, à regarder, pour moi, c'était bizarre, parce que je me dis, mais ça, c'est de l'eugénisme. Mmh. Et c'est quoi l'eugénisme? C'est décider qui a le droit de vivre, qui n'a pas le droit, selon ben leur santé, selon leur race, selon leur ce qu'ils contribuent à la société. Je m'excuse parce que ça va l'air d'être un petit peu peut-être fort, mais c'est exactement la même logique que Adolf Hitler il a utilisé quand il a commencé à éliminer tous les gens qui étaient handicapés. Ça a été la première chose dont il s'est occupé. Et puis plus tard, bien sûr, on sait ce qui est arrivé. Mais est-ce qu'on juge la valeur d'une personne par la santé, la race ou combien de rentabilité et combien il apporte à la société, ou alors parce que c'est une valeur humaine? Et je crois que c'est là où on en vient de savoir que cet enfant, eh ben, il a de la valeur et c'est ça qu'on veut apporter. On veut amener cette culture de la vie. Que c'est Dieu qui nous aime. Et quand Dieu nous dit de pas faire quelque chose, c'est pas parce qu'il est le père fouettard pour nous taper sur les doigts. On dit non, fais pas ça. Parce que Dieu qui est amour, il a une telle, il est vie. Jésus a dit, je suis la vie. Et il aime la vie et il nous aime tellement qu'il sait que quand on se donne à certaines choses comme ben le sexe en dehors du mariage ou de l'avortement, c'est-à-dire détruire une vie que lui a créée à l'intérieur, ben on va avoir, nous, il y a des choses qui vont nous faire du mal. Et Dieu nous aime tellement, je crois, que c'est pas qu'il veut nous dire non. Comme tu as dit avant, voici la vie et la mort, choisis la vie, parce que Dieu est un dit de vie, il est dans la culture de la vie et de l'amour, et c'est ce qui est dans le ventre d'une femme, c'est Dieu qui nous l'a confié, et parce que Dieu aime la vie, et c'est à nous de nous en occuper, et c'est ça de la valeur, pas parce qu'il est en bonne santé ou pas en bonne santé, mais parce que c'est parce que on nous l'a confié, et puis c'est de la vie.
Et puis, pour en revenir aussi à ton point, Mathilde, c'est qu'en fait, dans la balance, il y a la commodité et il y a la vie, en fait. Et que lorsqu'on propose avec insistance de porter les yeux sur la commodité, qui sont réelles, hein, finalement, je veux dire, dans certains cas.
Mais ce sont de vrais arguments qu'on donne. Oui, c'est vrai que cette grossesse-là n'était peut-être pas prévue et que ça va changer totalement le parcours de ma vie, si je choisis de garder cet enfant. Mais si je choisis de l'avorter, ça va également changer le parcours de ma vie. Je sais que j'ai connu des gens dans mon entourage qui ont énormément de pression, soit parce que c'était pas désiré ou parce que justement, on disait que l'enfant était trisomique. Et il se trouve que finalement, ces femmes-là ont choisi la vie. Et ça se trouve que les gens, l'entourage, la société, on n'était pas pour ça. Mais finalement, c'est du pur bonheur après, parce que oui, comme on est en train de
dire. Il y a des défis, c'est vrai, mais...
Oui, c'est certain, ça va changer. Ça va changer ma vie, totalement. Et non, c'est pas commode, ça m'adonne pas. Ça va peut-être mettre un stop à ma carrière, de choisir de porter cet enfant à terme. Mais en fait, c'est que... Bon, qu'est-ce qu'on va parler cette semaine, vraiment, c'est que... Ben, Dieu est l'auteur de cette vie. Et avec le choix
Comme toutes les vies.
Oui, c'est ça.
Une chose que j'aimerais terminer, parce que je crois que c'est là, c'est que bon, j'habite en Floride et on est sur la plage, on a des nids de tortues. Et quand c'est la saison où les tortues commencent à se reproduire, il y a une loi pour protéger les tortues. Et protéger non seulement les tortues, mais les œufs des tortues. Et là, cette loi dit que si on harasse, si on détruit, si on touche, si on
dérange,
on dérange les nids, même les nids ou les œufs, on peut avoir $250,000 d'amende et peut-être même un an de prison. Et on voit là qu'ils célèbrent la vie. Et moi, je suis tout pour protéger les tortues. J'aime les tortues. Mais demandons la même valeur pour des enfants. Dans le vent du mer.
Eh bien, merci beaucoup, mesdames. On va se retrouver demain. Et demain, nous allons parler des procédures de l'avortement. Comment se passe réellement un avortement? Non, c'est pas demain.
On va parler
demain, de c'est pas vrai. Ce sera après-demain. Donc, je m'avance un peu trop. Mais demain, nous allons parler du développement de l'enfant pour que vous puissiez encore plus vous avoir votre avis. Est-ce que il y a de la vie? Est-ce que c'est un être humain? Est-ce que cette vie en vaut la peine? Est-ce que ça est pour vraiment peser le pour et le contre dans vos décisions et dans vos convictions? Donc, c'est dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.